Oui.
De la politique dans cette édition, d'abord à Paris, puis sur la presqu'île. On suit aussi l'actualité sociale et la grève qui aura bien lieu ce vendredi. Et enfin, on visite une ferme solaire. Le journal de la mi-journée, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
L'actualité politique à la une à Paris, le gouvernement Barnier est tombé.
Oui, le gouvernement central a été censuré ce soir à Paris à l'Assemblée nationale, ce matin à Tahiti. Le Premier ministre va donc devoir démissionner comme l'ensemble de son gouvernement nommé en septembre. François-Noël Buffet, le ministre désormais démissionnaire des Outre-mer, avait parlé de conséquences graves et d'une situation très difficile pour les territoires ultramarins. Eh bien, on fait une voix, les réactions ne se sont pas fait attendre. Le président du pays a notamment réagi pour Moëtei Brotherson. Il faut s'attendre à une période de flottement dans la collaboration avec l'État.
Bien sûr, parce que le haut-commissaire lui-même, il prend ses directives de Paris. Donc, sauf sur certains sujets, on va dire, qui sont dans le flot courant des affaires déjà engagées. Mais sur des questions comme le CDT, les comités de pilotage qui vont se suivre, ou d'autres conventions qui sont à venir, bien là, on est suspendu au fait d'avoir ou pas des interlocuteurs à Paris. Alors, heureusement tout de même, c'est pas non plus le néant.
Voilà, pas le néant, car le président du pays rappelle notamment que l'administration française, elle, reste bien en place, et notamment la DGOM, la Direction Générale des Outre-mer, sur qui il compte pour assurer la continuité des dossiers. Et concernant le budget 2025 de la France, qui ne pourra pas être adopté, le président ne se dit pas particulièrement inquiet.
Au pire du pire, c'est les anciennes dispositions qui seront reconduites. C'est un peu comme pour nous, ça ne s'est jamais produit dans l'histoire, mais si un jour un budget n'était pas voté, c'est le budget de l'année N-1 qui est reconduit en attendant que. Il y a des choses que certains peuvent considérer comme des bonnes nouvelles, par exemple la taxe sur le transport aérien international. Bon, tout le monde n'aura pas à la subir pour le moment en tout cas. Je crois qu'il y a d'autres entre guillemets nouvelles qui étaient attendues des fonctionnaires sur les délais de carence, etc., les fonctionnaires d'État. Je pense que le président de la République a certainement conscience que cette fois-ci, il ne peut pas prendre 2 mois pour nommer à nouveau un gouvernement.
Et du côté de l'opposition, les députés Moerani Frebo et Nicole Sanquer ont voté contre cette motion de censure. Écoutez l'analyse de la députée autonomiste.
Nous nous y attendions, vu les déclarations des uns et des autres avant aujourd'hui. Et donc nous avons décidé de ne pas voter cette censure. Nous estimons que nous avons besoin d'interlocuteurs, nous avons besoin d'un gouvernement. Aujourd'hui, il y a un arrêt finalement dans les institutions. C'est vrai que nous avons aujourd'hui l'urgence de la Nouvelle-Calédonie. C'est clair que tous les dossiers que nous avions en cours, nous, au niveau de la Polynésie, ce sont évidemment les renouvellements de conventions État-pays.
Voilà, vous pourrez retrouver toutes les différentes rédactions sur notre site radio1.pf. On parlera notamment de celle du représentant et ancien député Tématei Le Gaïc, qui voit dans cette chute du gouvernement Barnier une opportunité de transformation au cœur d'une république vacillante. Selon le jeune élu, il s'agit d'une occasion de proposer une 6e république aux Français.
L'actualité politique, elle se passait aussi à la presqu'île ce matin.
Et plus précisément à la mairie de Taillarapou-Est, qui reçoit en ce moment même un conseil des ministres délocalisé. Avant cette séance, il y avait eu, comme c'est désormais la règle pour ce genre de déplacement, un long jeu de questions-réponses entre les responsables communaux et le gouvernement. L'occasion d'exprimer des doléances, de demander du soutien sur les projets développés entre Faone et Taotira. Charlie René, vous êtes sur place.
Oui, et vous l'avez dit, les demandes sont nombreuses à Taillarapou. Certains intervenants estiment que les habitants sont les oubliés du développement territorial. Voire même, aux yeux de Papété, les bouseux de la presqu'île, je cite. Il est vrai que malgré les annonces régulières d'opérations de rééquilibrage, l'équipement et l'investissement ne sont pas au niveau des ambitions du pôle économique sud, comme l'appelle l'exécutif. Alors les élus communaux ont parlé de logement social, d'état des routes, de gestion des épaves et des mouillages de bateaux, d'éclairage sur la voie publique ou sur les stades, d'équipements sportifs qui limitent l'activité de la jeunesse aussi, et donc favorise l'oisiveté. Les discussions ont d'ailleurs aussi porté sur la prévention de la délinquance avec une volonté de relancer le CLSPD, de développement économique aussi, Moëtei Brotherson notant que Taillarapou n'a pas de comité du tourisme à l'échelle de la commune. Sur chaque dossier, des réponses des ministres et surtout des promesses d'études et de nouvelles réunions techniques. Devant les doutes et incertitudes de suite de certains interlocuteurs, Moëtei Brotherson s'est voulu rassurant. C'est pour ça que l'on fait ces conseils délocalisés, pas pour visiter, mais pour faire remonter tous les dossiers et les traiter, Valdemar.
Mais s'il y a un dossier que la mairie voudrait voir traité, c'est celui de la rénovation de l'hôpital.
ou même là, de la reconstruction de l'hôpital de Talavao, puisque c'était ce qu'espéraient les élus communaux. Le projet leur avait été promis sous l'ancienne mandature, avec assez peu d'avancées concrètes avant les territoriales. Et forcément, la nouvelle équipe l'a reconsidéré, comme beaucoup d'autres grands chantiers d'ailleurs. Le ministre de la Santé ne le cache pas, ce sont les considérations financières qui l'ont amené à changer de cap. Un nouvel hôpital, c'est entre 17 et 28 milliards de francs, auxquels il faut rajouter, du côté de la santé, les 15 milliards de francs de réfection du CHPF, les plans de rénovation à Outuroa, les dispensaires et même le milliard de francs qui est investi en ce moment même dans la rénovation des locaux de Talavao. Il s'agit tout de même bien de proposer une mise à niveau de l'offre de soins à la presqu'île, mais avec un partenariat public-privé que Cédric Mercadal avait déjà évoqué sur nos antennes voilà quelques mois et que Moëté Brotherson a confirmé dimanche soir sur l'antenne de Polynésie la Première. Un appel à manifestation d'intérêt est en préparation. Il sera lancé au premier semestre. Les investisseurs privés seront donc invités à faire leur proposition de construction d'une clinique à leurs frais sur un terrain qui jouxte l'hôpital actuel, avec au minimum une maternité et un bloc chirurgical dédié notamment à l'obstétrique et aux urgences. Le projet, plutôt novateur dans son format, a donc été présenté au conseil municipal qui ne l'a pas commenté à l'heure actuelle, Valdemar.
Merci Charlie René qui était donc en direct de Tayarapu-Est où un conseil des ministres est en cours. On doit notamment y parler de registre du commerce. On vous en dira plus très bientôt sur radio1.pf.
Dans l'actualité sociale, ça bloque entre la FRAP et le gouvernement.
Oui, mardi soir, le gouvernement a mené un nouveau round de discussion avec la FRAP qui menace de déclencher une grève de la fonction publique territoriale ce vendredi. Le syndicat explique avoir demandé à l'exécutif de discuter des deux points les plus importants après avoir passé en revue les 16 autres revendications. Finalement, près de 6 heures de négociations. Les discussions bloquent sur la demande de revalorisation de 40% du point d'indice des fonctionnaires, une mesure qui coûterait plus de 11 milliards de francs par an, d'après le gouvernement. Et Brotherson explique ne pas pouvoir le faire évoluer dans les proportions demandées par la FRAP.
S'il s'agit de faire un bond de 1060 à 1500 en une fois, la réponse sera également non. On ne va pas se le cacher, on ne va pas tourner autour du pot. Si mes prédécesseurs ne l'ont pas fait, c'est qu'il y avait des raisons de le faire. Et ça m'amuserait beaucoup de les voir nous critiquer sur ça dans les jours qui viennent à l'Assemblée. Maintenant, dans le cadre des discussions qui sont planifiées de manière récurrente au mois de mars, on peut discuter.
Et un projet de protocole d'accord est d'ailleurs en cours de rédaction au ministère de la fonction publique et une nouvelle invitation a été lancée à la FRAP pour reprendre les négociations ce soir. De son côté, les représentants disent n'avoir reçu pour l'instant aucun protocole et assurent qu'en l'état actuel des discussions, rien ne sera signé.
Je n'ai pas reçu de protocole, là. De toute façon on ne va pas le signer. Si c'est pour aller les rencontrer ce soir et nous dire les mêmes bêtises, les mêmes niaiseries, non. C'est parti, là. Nous sommes en plein de réunions d'informations dans les grands services. Le mot d'ordre, c'est d'aller à la grève dès vendredi matin.
Voilà, vous l'avez reconnu bien sûr, Jean-Paul Ourima, le secrétaire général de la FRAP. À l'entendre, si le président ne change pas son fusil d'épaule, la grève sera donc effective ce vendredi et devrait paralyser 14 établissements du pays.
On reste dans le social avec la création d'un comité associatif.
On compte 9000 associations en Polynésie française, mais sont-elles toutes actives? Que font-elles? Quels sont leurs domaines? Comment mieux les accompagner? C'est pour répondre à toutes ces questions que la ministre de la Jeunesse et des Sports, Nahema Temari, a créé ce comité associatif. L'idée est de mettre un peu d'ordre et de mieux les connaître. Le pays qui fêtera d'ailleurs aussi bientôt la journée internationale du bénévolat. Ce sera vendredi au parc Paofei de 8h30 à 23h.
On parle énergie, Valdemar. La ferme solaire du groupe Moux a été inaugurée hier à Mataya.
Et oui, Mana Solar. Cette ferme solaire doit produire chaque année l'équivalent de la consommation électrique de 5200 foyers, soit une économie de 2 millions de litres de gasoil. Albert Moux connaît très bien ces chiffres, car ce gasoil, c'est lui qui le vend à EDT pour alimenter la centrale de Punaru.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on paie 2 millions de litres, mais on a développé les fermes solaires. Peut-être on va compenser par ça. C'est un peu le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire que j'ai créé pour le groupe, pour remplacer les matières fossiles. Il y a 10 ans, Vodafone, des grandes boutiques, l'immobilier, du gaz et du solaire. Voilà.
Et le groupe Moux ne va pas s'arrêter là. Un nouvel appel à projet pour de grandes fermes solaires doit être lancé en janvier. C'est ce qu'a confirmé hier Moëté Brotherson. Et le groupe Moux sera bien candidat. Il devrait retrouver face à lui la famille Siou qui avait ouvert sa propre ferme agrivoltaïque à Taravo voilà un mois. Côté cahier des charges, le gouvernement est toujours en réflexion.
On a tenu compte de l'expérience justement du premier appel à projet. Pour l'instant, je ne peux évidemment pas vous dévoiler les tenants et les aboutissants de ce cahier des charges. Mais aujourd'hui, par exemple, ce qu'on observe, c'est surtout des grandes installations qui occupent un espace assez grand. Ici, c'est 10 hectares. La précédente, c'était 4 hectares. Maintenant, on peut aussi réfléchir à d'autres mécanismes. Par exemple, sur l'ensemble des bâtiments publics dispersés, on pourrait avoir un réseau de plus petites installations qui seraient regroupées dans un seul projet. Ça fait partie des réflexions qui sont menées.
Voilà, vous avez une nouvelle fois entendu dans ce journal Moëtei Brotherson qui a été à l'inauguration de Mana Solar hier. 42 000 panneaux donc sur 10 hectares, mais pas que. Sous ces panneaux, des concombres, du pota, du café, de la vanille ou encore des graines de chia. Il y aura même bientôt un grand troupeau de moutons. La première ferme solaire inaugurée il y a un mois, Mahana Oyupe avait choisi les bovins. Pour Albert Moux, ce sera donc les moutons. Ils sont déjà 5 à paître sous les panneaux. Ils viennent d'un troupeau de la famille Kopenrat et d'autres doivent arriver bientôt, sans doute de Eyao, une petite île inhabitée des Marquises.
Après le classement de Tapu Tapu Atea à l'UNESCO, il est question de demander le classement du triangle polynésien.
Et oui, déjà à 8 ans que Tapu Tapu Atea est classé au patrimoine mondial et l'association Papa Evao veut désormais faire entrer le triangle polynésien dans cette liste prestigieuse. L'association va monter le dossier d'inscription d'un espace qui va inclure plusieurs sites de Hawaï à Aotearoa, Rapa Nui, des îles Cook et bien évidemment Tapu Tapu Atea. Chaque pays impliqué devra choisir son site emblématique et ensemble ils devront choisir une thématique commune. On écoute Richard Tuayava qui préside l'association.
Que ce soit la navigation aux étoiles ou la relation volcanique ou alors peut-être des rituels. En tout cas, une thématique unique qui permettra de relier tous ces sites autour de ce concept de triangle polynésien. Et ça, c'est extrêmement intéressant puisque ça permet aussi non seulement de préserver l'océan au milieu, toute la zone triangulaire, mais aussi de faire du travail régional, de reconnexion des généalogies, de reconnexion du travail universitaire et scientifique commun pour permettre à ces communautés qui sont de la même souche, en fait, de se retrouver encore une fois.
Et à noter que ce dossier a davantage de chances d'aboutir rapidement car il ne doit pas passer par un quota français ou américain. Ce sera le pays le plus en vue auprès de l'UNESCO qui fait le dépôt unique pour l'ensemble des différents pays.
On vous parle cinéma maintenant. Bon, Valdemar Vaiana 2 fait un véritable carton et justement, ça engendre quelques problèmes.
Et oui, ça chauffe dans les salles depuis la sortie de Vaiana 2. La société Pacific Film évoque plusieurs signalements de personnes tentant de capturer le nouveau film de Disney avec leur smartphone. Quelqu'un a même réussi à l'enregistrer et cette personne a annoncé sur Facebook la diffusion du Disney pour permettre, je cite, aux enfants qui n'ont pas les moyens d'aller au cinéma de le voir. Alors c'est gentil, mais